Bonjour à tous, nous sommes le mardi 8 mars et c'est une journée spéciale unie pour l'Ukraine aujourd'hui. De très nombreux rendez-vous dans le 7-9 et jusqu'à ce soir avec un concert exceptionnel en partenariat avec France 2 et la Croix-Rouge française en soutien au peuple ukrainien. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Odessa se prépare à un assaut majeur des forces russes. Nous sommes sur place dès le début du journal après les autres titres, Anaïs.
Nous sommes aussi à Saint-Nazaire. Les cuves du terminal méthanier continuent de se remplir de gaz russe alors qu'on évoque de nouvelles possibles sanctions. Emmanuel Macron en candidat hier à Poissy devant un public plus que conquis. Échange pas très spontané avec les habitants, on vous raconte. Et puis en cette journée des droits des femmes, le lancement d'un nouveau label classique pour nous faire découvrir les compositrices.
Et à l'occasion de la journée spéciale Ukraine, invité de France Inter ce matin à 7h50 avec vous Léa.
C'est la crise de réfugiés la plus importante et la plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale, dit-il. Des millions d'Ukrainiens ont déjà fui leur pays. Ce sont des Ukrainiennes, surtout, avec leurs enfants. Comment sont-ils accueillis? De quoi ont-ils besoin? Comment les aider? On sera à 7h50 avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.
A tout à l'heure, Léa. 8h20, on se retrouvera pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le standard est ouvert et vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Les civils ukrainiens peuvent-ils s'échapper du cauchemar? Dans l'attente ce matin de couloirs humanitaires avec de nouveaux itinéraires, des cessez-le-feu locaux sont annoncés pour 8 heures, heure de Paris, proposés par Moscou. Les civils de plusieurs villes, dont Kiev, seraient concernés. Rien de tel pour l'instant à Odessa. La troisième ville du pays se prépare à l'assaut des Russes. Ce grand port sur la mer Noire est la porte d'entrée du pays sur le reste du monde. Odessa, ville multiculturelle stratégique, se prépare. Reportage de nos envoyés spéciaux Marc Garvenès et Vanessa Descoureau.
C'est tout le paradoxe d'une ville qui s'offre encore des cafés en extérieur, qui se permet de laisser quelques-unes de ses librairies encore ouvertes et qui pourtant est l'une des plus militarisées du pays. Le bord de mer est inaccessible. Le port, au ralenti, les plages, en partie minées, rapportent différentes sources. Le front de mer est devenu une zone militaire, comme l'explique le capitaine Ustyshenko.
On attend l'assaut des bombes, par avion et par bateau. À Odessa, nous avons plusieurs ports. C'est là que passe principalement l'import et l'export dans le pays.
Toutes les bases militaires de la ville ont été vidées de leurs soldats, installées depuis dans des emprises civiles, tenues secrètes. Odessa, d'ordinaire frivole et festive, se met en ordre de bataille, à l'image d'Oleg, un jeune volontaire dans la défense territoriale.
En un contre un, ce n'est pas un problème. Même 5 Russes contre un Ukrainien, on sait faire. Et allez, 5, on y va, je suis tout seul, je m'en occupe. Même ma grand-mère m'a dit, vas-y, engage-toi, je t'attends. Ma grand-mère de presque 80 ans.
À l'entrée de la ville, des panneaux de soutien à l'armée ukrainienne donnent une idée de l'esprit qui règne à Odessa, un dessin d'un navire russe qui coule dans une mer de sang.
Vanessa Descoureau et Marc Garvenès à Odessa, 12e jour de l'offensive, plus de 400 civils tués au total selon l'ONU, plus de 800 blessés, bilan probablement très inférieur à la réalité, avoue le Haut-Commissariat aux droits de l'homme qui réclame des couloirs sûrs pour acheminer l'aide humanitaire. Dans les villes assiégées, les vivres commencent à manquer. La Croix-Rouge mobilise donc ses milliers de bénévoles, comme ici en Pologne à Lublin, près de la frontière. Agathe Mahué, un nœud stratégique de cette première aide d'urgence.
On est ici dans un vaste entrepôt que la Croix-Rouge polonaise a investi au lendemain du déclenchement de la guerre. 2000 mètres carrés dans le nord de Lublin. Les dons en provenance de toute l'Europe y sont triés. C'est Pavel Romanski, un bénévole qui fait la visite. D'un côté, les produits alimentaires et puis de l'autre, les médicaments, les produits d'hygiène. Mais surtout pas de vêtements.
Vous voyez ces énormes piles de sacs blancs? C'est ce qui reste de tous les habits qu'on nous a donnés il y a 3 mois lors de la crise des réfugiés à la frontière biélorusse. Au total, ça fait 14 000 kilos de vêtements qu'on a toujours en stock. Pas besoin d'en collecter d'autres.
Au sous-sol, les boîtes de thon, les packs d'eau sont regroupées. Et puis à l'étage...
Oui, les couches pour les bébés.
Luc a 26 ans.
Je suis un avocat à Londres, ouais. Et je suis venu ici pour 3 jours. De Londres, c'est seulement 2 heures.
En fait, tu voulais agir au plus près.
Bah oui, on voulait faire quelque chose avec les mains, quoi.
Les produits sont ensuite transférés, alors soit vers les lieux d'accueil de réfugiés, notamment en Pologne, soit directement vers l'Ukraine. Dehors, une nouvelle camionnette s'apprête à repartir. Direction Loutsk, dans le nord-ouest, avec des vivres, des pansements, des médicaments.
Et la Croix-Rouge associe aujourd'hui avec Radio France et France Télévisions grand concert de soutien ce soir à partir de 21h10. Sur le terrain en Ukraine, intensification des bombardements sur Kharkiv qui masquerait l'absence d'avancée au sol. C'est l'analyse des Américains, car du côté des forces militaires, la Russie en a-t-elle encore sous le pied? Selon le Pentagone, la quasi-totalité des 150 000 soldats prépositionnés ces derniers mois à la frontière ont été envoyés en Ukraine. Moscou chercherait à recruter ailleurs. On parle de soldats venus de Syrie. Les détails il y a 7h30.
Il est 7h06 et dans le domaine des sanctions visant la Russie, Anaïs, est-il possible d'aller plus loin?
Fermer le robinet du gaz et du pétrole russe par exemple, plus facile à faire pour les États-Unis, beaucoup moins pour l'Europe, mais la question a été évoquée hier entre dirigeants américains, britanniques, français et allemands. Pour l'instant, aucune restriction, les terminaux gaziers font le plein. À Montoire de Bretagne, près de Saint-Nazaire, un méthanier avec du gaz russe est arrivé ce week-end depuis Yamal, au nord de la Russie. Bonjour Hélène Roussel.
Bonjour.
Vous êtes à Saint-Nazaire, deux autres navires sont annoncés et pour les autorités, c'est surtout une question d'affichage.
Oui, quand le méthanier venu de Sibérie navigue sous pavillon russe, là, il doit faire demi-tour. C'était le cas il y a quelques jours du brise-glace géant nommé Christophe de Margerie, dérouté vers le terminal de Rotterdam. En revanche, quand le bateau est aux couleurs de Chypre ou des Bahamas, là, ça passe. Exemple avec le Boris Vilkitsky, arrivé samedi à Montoire, reparti dimanche. Ce soir, c'est un autre méthanier, toujours avec du gaz russe à bord, qui est attendu, le Rudolf Samoylovitch, parti début mars de Sabetta, le port d'extraction de Yamal. Il devrait décharger demain matin. Et déjà, à l'horizon, en voici un autre, le Yakov Gakel, dans la nuit de samedi à dimanche. Des méthaniers avec à bord plus de 170 000 mètres cubes de gaz naturel, liquéfié, ce qui permet d'en transporter 600 fois plus que sous forme de gaz.
Et que devient ce gaz naturel liquéfié une fois déchargé ?
Eh bien, LNG, filiale d'Engie, le regazéifie, le stocke dans une cuve et l'injecte dans les réseaux, ou bien le transborde de navire à navire pour le remettre sur le marché mondial. L'Europe fait le plein, c'est un balai de déchargement, dénoncent les associations. En réalité, une cadence assez classique pour le port, qui a déjà, nous dit-on, suffisamment de stock, de quoi tenir au moins 3 mois.
Hélène Roussel, France Bleu, Loire-Océan et la Russie menacent elle d'un choc pétrolier majeur en cas d'embargo sur le pétrole russe, avec un prix du baril qui pourrait monter à 300 dollars. Autre levier, les biens des oligarques russes, un yacht et 4 cargos déjà immobilisés provisoirement en France. Mais pour aller au-delà du gel des avoirs, l'étape suivante, c'est la saisie judiciaire, autrement plus complexe sur le plan juridique, Emmanuel Leclerc.
Avant les oligarques russes, il y a eu les biens saisis de Ben Ali et de ses proches et ceux de l'Égyptien Moubarak. C'était il y a un peu plus de 10 ans et c'est déjà presque une impasse. Sarah Brimboeuf de l'ONG Transparency International.
Au lendemain des printemps arabes, Christine Lagarde, qui était la ministre de l'économie de l'époque, avait annoncé, en plus des mesures de gel à l'encontre de Moubarak, de Ben Ali, l'ancien dirigeant tunisien, des saisies de leurs biens, donc l'ouverture d'enquête. Aujourd'hui, en 2022, elles sont encore en cours. Certaines saisies, en fait, sont très fragiles. L'enquête s'est étiolée, ça s'est enlisé et puis finalement on abandonne les poursuites.
Pour le professeur de l'école de droit à Sciences Po Paris, Régis Bismuth, avant de parler de saisie judiciaire des avoirs russes et de confiscation à très long terme, il y a pourtant une mesure concrète qui pourrait être adoptée très rapidement à Bruxelles.
Il est possible à court terme de renforcer certains aspects des mesures de gel, modifier notamment le règlement européen.
Et cela permettrait aux États d'empêcher cette fois les enfants, les amis des oligarques russes qui ne sont pas ciblés par les sanctions, de profiter des palaces, des chalets ou des yachts pour leurs vacances et que les États européens puissent les louer et créer ainsi des futurs fonds d'indemnisation des victimes de guerre en Ukraine ou pour la reconstruction des infrastructures rasées par les bombes.
Emmanuel Leclerc.
Il est 7h09, le conflit ukrainien en toile de fond de la première sortie du candidat Emmanuel Macron hier à Poissy.
Et il a du mal à délaisser le costume, l'exécutif pour endosser celui de candidat annonçant Emmanuel Macron des aides gouvernementales ciblées sur l'essence face à la flambée du carburant. Emmanuel Macron, dans un échange avec des habitants des Yvelines, présenté comme totalement libre et sans filtre, mais France Inter s'est procuré des documents montrant que la rencontre avait été soigneusement préparée en amont, Simon Le Baron.
D'entrée, il y a une évidence. La salle est loin d'être hostile.
Merci Monsieur le Président. Est-ce que je peux venir à côté de vous pour prendre une photo, s'il vous plaît ?
Ça, c'était pas préparé. Hein.
C'est le maire Carl Olive, un ami du président, qui a invité les 250 participants. Mais il l'assure, tous n'ont pas voté Macron il y a 5 ans. Le candidat lui a même demandé, dit-il, d'organiser un échange sans concession.
Vous m'avez dit, totale confiance, pas de thématique imposée.
Je veux taper dans le sac, je veux pouvoir confronter mes idées avec les Français.
Sauf qu'on était loin de la conversation spontanée vantée par l'écurie présidentielle. Carl Olive, l'ancien journaliste qui jouait les animateurs, avait des fiches que France Inter a récupérées. Les questions étaient prévues, écrites en amont. Le président candidat les connaissait-il à l'avance ? Les questions auraient-elles pu être soufflées par son équipe ? Pas du tout, parole d'honneur, répond le maire, qui assure avoir simplement voulu thématiser au mieux la soirée. J'ai reçu des dizaines de questions, j'ai choisi les plus pertinentes. Emmanuel Macron n'a pas besoin de ça, ajoute-t-on au QG de campagne. Il a prouvé pendant le grand débat qu'il n'était pas du genre à esquiver la confrontation. Disons simplement qu'il a sans doute connu confrontation plus virulente que celle d'hier soir.
Et ces fiches sont d'ailleurs en photo sur franceinter.fr. Le candidat Macron, par ailleurs, s'est engagé, s'il est réélu, à supprimer la redevance qui finance toutes les chaînes de télé du service public, toutes les antennes de Radio France ainsi qu'Arte, France 24 ou RFI. Il veut aussi réserver aux entreprises une demi-journée par semaine dans les collèges pour des séances d'orientation dès la cinquième. À l'étranger, la plus grande ville d'Australie, sous le déluge de pluie, des dizaines de milliers d'habitants de Sydney, 60 000 priés d'évacuer leur maison, inondation sans précédent. C'est l'équivalent aquatique des feux de forêt, selon les secours australiens. 10 000 participants attendus à Paris en ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes, dans un vaste défilé contre les violences sexistes et pour l'égalité. On rappelle que les femmes gagnent en moyenne 22% de moins que les hommes dans le privé. Défilé aussi dans une soixantaine de villes de France. Et sorti aujourd'hui également d'un nouveau label classique destiné à faire connaître les 4% de compositrices françaises. Stéphane Capron, le premier volume de la collection, nous fait découvrir Charlotte Zoé.
En 2020, la violoncelliste Héloïse Luzzetti fonde l'association Elle Woman Composer en partant d'un constat très simple.
Où sont les compositrices dans mon éducation musicale ? J'en ai pas travaillé pendant mes études.
Elle se lance dans un travail de recherche et découvre une richesse inexploitée.
Tous les jours, en fait, j'entends parler d'une compositrice que je ne connaissais pas. On va dire le cœur de cette association, c'est un collectif de musiciens et c'est des lectures, soit de premières éditions, soit de manuscrits, de partitions, pour pouvoir identifier des œuvres qui ne sont pas en circulation.
Le premier volume de la collection est donc consacré à Charlotte Zoé qui a traversé le XXe siècle.
Les premiers opus, c'est d'un caractère follement dramatique. Plus le temps passe, plus les guerres passent aussi. On change de discours, c'est moins figuratif. Petit à petit, ça devient plus impressionniste, sa musique. Voilà, mais elle est vraiment dans la pure veine de la musique française de cette époque-là.
Sur cet album figurent des quatuors, des pièces pour piano et orchestre. Et ce n'est qu'une petite partie de l'œuvre immense de Charlotte Zoé, qui a aussi composé un opéra.
Et je vous rappelle ce label Elle Recording Woman Composer concert de lancement. Ce sera ce soir au Théâtre des Champs-Élysées à Paris.
Merci Anaïs Feugat. Le Zoom dans 3 minutes aujourd'hui. Les femmes ukrainiennes face à la guerre.